أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous avions commencé à parler réellement dans le cadre du dogme, de l'enseignement du dogme islamique. Et nous étions arrivés, mes chers frères et sœurs, sur la question de l'imamat du 12e imam. Et nous avons parlé réellement de son imamat, comment l'imamat s'est-il passé. Nous avons parlé aussi de sa naissance. Et nous avons aussi parlé effectivement, si vous nous avez suivis, mes chers frères et sœurs, nous avons parlé aussi de sa longévité. Et etc., que nous avons parlé réellement sur la question de l'idéologie, le fait de croire aux 12 imams qui devraient succéder au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme étant bien des successeurs légitimes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, prédit par le prophète lui-même. Et c'est ce que nous avons essayé de relater dans le hadith de Jabir radiallahu anhu. Il a dit comme ça que عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جابر dit que j'ai entendu le prophète محمد صلى الله عليه وآله وسلم parler. يقول لا يزال هذا الدين مستقيما. Et cette religion ne sera pas réellement une religion, vraie religion, est complète. Et حتى يقوم 12 خليفة, jusqu'à ce que il y ait les 12 خليفه, les 12 imams se succèdent et dans cette religion. Et summa qala kalimatan lam afhamaha, il dit qu'il a dit une chose après que je n'ai pas compris, et j'ai demandé mon père qu'est-ce que le prophète avait dit. Il a dit que kulluhum min quraish, et tous ces imams proviendront de la tribu de Quraish. Donc en réalité, ce qui nous importe, mes chers frères et sœurs, c'est cette question des 12 imams qui devraient succéder le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc en réalité, ou aussi, ça fait partie des caractéristiques de ces 12 imams, et aussi qu'ils soient de la tribu Quraysh, et c'est ce qui a été signifié dans le hadith. Vous pouvez trouver ce hadith dans Kenzul Umal, vous pouvez trouver aussi ce hadith dans les autres livres, chers frères et sœurs. Donc le hadith des 12 imams, c'est tout à fait un hadith clair. Et aujourd'hui, nous avons parlé aussi de la naissance du 12e imam, etc., et aussi les conditions, Inch'Allah, le fait qu'il a été nommé comme étant bien le successeur de l'imam Hassan al-Askari alayhi salam. Donc en réalité, il est devenu imam, il est né, comme nous l'avons signifié, à 255. Après 255, mes chers frères et sœurs, et il est rentré dans le réellement d'un al-ghaïba, ouais, occultation, si on peut s'exprimer ainsi, pendant 70 ans, l'occultation minère, pendant 70 ans, parce que l'occultation minère s'est commencée, si j'ai une bonne mémoire, à 260, jusqu'à 300, je crois bien, 29 ou 28. Donc, mes chers frères et sœurs, lorsque vous essayez de faire un calcul, vous allez trouver que cette occultation, l'occultation minère, a pris ce temps de 70 ans, et après la succession des représentants d'imams, des 12e imams, alayhi salam, dans la communauté musulmane, en particulier dans la communauté chiite, donc en réalité cela a fait, s'est écoulé sur cette communauté 70 ans, étant bien en relation avec l'imam, l'imam du temps. Ils ont profité de ses enseignements, ils ont profité aussi de ses conseils, mais ses conseils et enseignements étaient donnés de façon indirecte. Il y a cette question, il y a aussi, nous avons parlé aussi de sa longévité. Sa longévité ne doit pas dépasser notre entendement, comme certaines personnes essaient de nous faire croire que c'est impossible. Et non, ça ne rentre pas dans le cadre de l'impossibilité, mais ça rentre dans le cadre de la possibilité. Et nous avons cité certains exemples. Nous avons parlé de Nuh alayhi salam, et nous avons parlé aussi de Younous, nous avons parlé aussi, c'est un livre sunnite, on parle aussi de Ilyas, on parle de Khidr. Et l'exemple palpable que nous avons, ce n'est rien d'autre que l'exemple de Satan, à Shaytan. Aujourd'hui, il est depuis, avant la création de notre Père, il existait jusqu'à aujourd'hui, il existe. dans la possibilité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Dieu qui lui a donné cette possibilité. Et alors, celui-là, il s'est engagé aussi à essayer de pousser les êtres humains à la perversité, mais Sahib Zaman, son objectif, ce n'est rien d'autre que amener les gens vers la lumière et installer la justice. Donc, et celui-là même, et je dois bien que il doit pouvoir aussi profiter réellement, si celui qui doit le profiter réellement, de ses dons divins. Donc, c'est tout à fait clair que ça ne rentre pas, mes chers frères et sœurs, dans le cadre de l'impossibilité. C'est tout à fait possible que Sahib Zaman soit parmi nous. Et c'est ce que nous avons cité dans le hadith tantôt, que le hadith qui dit que man lam ya'raf imam zamani mata maytatan jahiliya, celui qui n'a pas connu l'imam de son temps, il meurt, lorsqu'il meurt, il meurt réellement étant païen ou polythéiste. Donc mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair que nous devons chercher à comprendre qui est réellement notre imam, l'imam de notre temps. Et la succession de ces imams, ça s'est fait de telle sorte que le prophète lui-même, il a essayé de nommer Imam Ali alayhi salam, et après Imam Ali a nommé Imam Hassan Hussein, et etc. de façon successive jusqu'à à nos jours. La question qui se pose sur cette question, sur ces questions de l'imam concernant l'imam des 12 imams, il est important, mes chers frères et sœurs, que nous puissions faire revenir certains équivoques, certains doutes que les autres ont essayé d'établir et de faire naître dans l'intelligence ou dans la tête des autres personnes ou des personnes aussi très simples qui ne sont pas accrochées à la connaissance de l'islam, qui ne donnent pas tellement d'importance en cela. Ils ont essayé de créer un doute dans la société musulmane parlant des autres écoles chiites qui n'étaient pas d'accord avec cette question des 12 imams. Donc mes chers frères et sœurs, il est important que nous puissions revenir sur cette question et essayer de parler de ces écoles. Je ne vais pas parler de toutes les écoles, mais des écoles qui ont pu réellement menacer et aussi que l'ennemi qui s'oppose, il se fie réellement à ces écoles pour pouvoir essayer d'invalider réellement la foi chiite et aussi et de ne pas croire réellement aux enseignements chiites. Et nous avons essayé de parler de cela à ces ennemis. Il y a certaines personnes qui se trouvent, qui sont bien sûr des sunnites, qui disent que nous ne sommes pas unanimes d'abord sur les 12 imams, alors que vous parlez des 12 imams. Et ils ont essayé réellement de parler de cela et essayé de mettre devant nous certaines écoles qui se sont créées d'un moment ou d'un autre avec l'évolution historique dans le monde chiite, qui se sont créées. Et effectivement, on a eu réellement à apporter notre idée là-dessus pour essayer d'éclairer notre téléspectateur, Inch'Allah. Il y a la première école qui s'est créée normalement après l'imam des imams, après l'imam Hussein alayhi salam, c'est la première école qu'on appelle Al-Firqa Al-Zaydiya, c'est-à-dire l'école des Zaydites. L'école des Zaydites, vous allez trouver que ça s'est créé après l'imam Sajjad, l'imam Ali, réellement Sajjad, c'est-à-dire que le fils d'imam Hussein, après lui, après son martyr, l'école s'est créée parce qu'il y a eu des problèmes sur la succession. Pour dire réellement que est-ce que la succession appartient aujourd'hui, c'est la question que nous nous posons aujourd'hui, mais dans le passé, il n'y avait pas ce problème-là. La succession appartient réellement à Imam Zayd ou appartenait réellement à Imam Baqir. Cela s'est posé réellement, mais ça n'a pas aussi créé des problèmes parce que Zayd étant bien là, l'imam était bien connu. Et les gens ont essayé de dire que réellement que c'est lui qui a été imam, pas Imam Baqir. Cela s'est passé après, réellement. Mais lorsque vous essayez de dire cela, cela ne rentre pas en compte parce que l'imam des Zaydites s'est limité à Zayd ibn Ali. Donc en réalité, lorsque vous essayez de voir Zayd ibn Ali, alayhi salam, si l'imam se limite en cela, donc nous ne pouvons pas se fier réellement à cet hadith qui nous parle des 12 imams, qui est un hadith aussi authentique. Et il y a ce problème-là. Et il y a aussi, mes chers frères et sœurs, réellement que le fait de dire que l'imam Zayd, il était comme étant bien le successeur légitime d'imam Zain al-Abidin, réellement, il n'y a pas de preuve en cela. Lui-même, il ne s'est pas annoncé étant bien un imam, parce que l'imam, il a d'abord le rôle de s'annoncer comme étant bien le successeur légitime de son père, comme étant bien l'imam, comme il s'est passé pour les autres imams. Mais lui-même, il ne s'est pas affiché comme imam, et lui-même, pendant ce temps, il n'était pas imam, et réellement, il est tombé en martyr en 120 Hijir. Mais après ce martyr-là, c'est dans le cadre, lorsque les gens ont pu crier et cela s'est passé, donc Zayd n'était pas considéré comme étant bien un imam. Parce que ce jeu, l'imamat est conditionné d'abord par le soulèvement, il faut se soulever contre les tyrans. Et les autres imams qui étaient là, c'est-à-dire entre après le décès d'imam Zain al-Abidin jusqu'à le soulèvement des Zayd, c'est comme s'il n'y avait pas d'imam. Donc en réalité, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas la croyance chiite. La croyance chiite dit que la terre ne peut pas être vacante d'imam, que ce soit un imam connu ou un imam caché. Donc en réalité, mes chers frères et sœurs, Zaydiya, lorsqu'on parle de Zaydiya, ce n'est une école qui a été créée après Zayd lui-même, que lui-même ne s'est pas affiché comme étant bien l'imam de la communauté chiite, et ce sont eux qui ont essayé de lui donner ce titre-là. Donc en réalité, mes chers frères et sœurs, ça n'a aucun sens, parce que lorsqu'on accepte cela, cela veut dire qu'après Imam Zayd al-Abidin, si la condition de l'imamat est faite de sorte que, qu'il faut se lever contre des tyrans, faire une révolution, entre imam, le martyr d'imam imam Zain al-Abidin jusqu'à la révolution des Zayd, donc il est resté cet espace creux, hein, mes chers frères et sœurs, qu'il n'a pas eu d'imam, alors que ce n'est pas l'idéologie chiite sur cette question pour dire que non, un moment donné qu'il n'y ait pas d'imam sur cette terre. Il y a cela. Donc mes chers frères et sœurs, lorsqu'on essaie de voir tous ces éléments, et ça nous vient en compte que l'imamat s'est limité à Zayd, donc en réalité, ce n'est pas aussi un enseignement aussi très correct dans le cadre chiite que nous n'acceptons pas. Ça, c'était le premier point. Il y a aussi une autre école, lorsqu'on parle de l'école ismaélite. L'école ismaélite, c'est dans le cadre d'après Imam Sadiq alayhi salam, et on a dit qu'il y a certaines personnes qui se sont affichées pour dire que Imam Ismaïl ibn Imam Sadiq, Ja'far Sadiq, était l'imam et le successeur de son père. Donc en réalité, malheureusement, Imam Sadiq, Imam Ismaïl est décédé avant le martyr d'Imam Sadiq. Donc cela est très important, mes chers frères et sœurs, pour dire que le successeur doit rester après celui qui est succédé. Donc cela, il n'est pas considéré ici comme étant bien le successeur. Ça, c'est le premier point. Et la preuve du fait des 12 imams que nous avons cités tantôt, et les 12 imams reviennent parce que l'imamat se limite à, effectivement, à Imam, donc pour Ismaïl ibn Ja'far, ça se limite à alayhi salam. Donc en réalité, si ça se limite là-bas, c'est comme si les 12 imams, le hadith des 12 imams n'était pas correct. En réalité, c'était un hadith aussi très fiable et aussi juste. Et nous avons l'enseignement qui est tout ce qui trouve dans le hadith, lorsque le hadith dit, avec les 5 chaînes de transmission de ce hadith, nous comprenons réellement que c'est un hadith fiable et vrai. Donc en réalité, il y a cela, mais Zayd Ismaïl, il est décédé avant Imam Sadiq, donc en réalité, on ne parle pas ici de succession. Vous voyez, c'est comme si c'est le père qui avait succédé au fils, donc on ne parle pas de succession. Mais c'est après, lui-même ne s'est pas auto-réclamé et comme étant bien l'imam, puisqu'il était le grand. C'est pour cette raison qu'il y a eu cette question. Donc, Zayd, réellement, lorsqu'on parle de Zayd, d'Imam et Ismaïl, en réalité, je ne parle pas de Zayd, mais Ismaïl. Lorsqu'on parle d'Ismaïl, en réalité, Ismaïl n'était pas imam des Ismaïlites. C'est après, lorsque je vais parler de l'État fatimite, s'est construit à Misr, en Égypte. Non, en réalité, il y a eu des successeurs des khalifs là-bas qui se sont autoproclamés, qui ont proclamé ou annoncé Zayd comme étant bien, mes chers frères et sœurs, un imam. Non, en réalité, Zayd n'était pas imam. Et l'imam dit que je vous prends en témoin que Zayd, même, il est décédé. Donc, il n'est pas imam. Donc, en réalité, lorsqu'on parle de Zaydiya aussi, ça rentre dans le même cadre. Il ne croit pas l'imamat des autres imams et aussi les hadiths des 12 imams. Il ne croit pas à cela. Donc, en réalité, l'imam l'imama de Zayd n'était pas l'imama de succession et ils se sont lui-même ils lui ont donné ce titre alors que lui-même ne l'a pas annoncé. Donc il y a ce cadre-là. Il y a aussi nous avons El Firqa El Fathiya et c'est une école aussi réellement que lorsqu'on regarde dans les enfants d'Imam Sadiq Abdullah ibn Aftah qui étaient là et des enfants qui étaient avec Imam Sadiq en réalité. Donc après Imam Sadiq, il y en a qui ont pu annoncer lui-même aussi son imamat, alors que c'est Imam Kazim qui a été nommé étant bien l'imam. Mais il faut comprendre que pendant ce temps-là, ça a créé beaucoup de, je peux m'exprimer ainsi, ça a créé beaucoup de doutes dans la tête des chiites en réalité. Et les chiites avaient cette question de se poser réellement sur l'imamat d'Imam Al-Kazim. Et Imam Al-Kazim s'est passé réellement, mais lorsqu'on a fait Firqat al-Fathiya, comme si l'imam s'est limité à Firqat al-Fathiya, cela va se limiter seulement qu'à 7 imams, alors que nous parlons de 12 imams. Mais heureusement que Al-Firqa, c'est-à-dire l'école al-Fathiya, ils ont compris après réellement l'imam d'Imam Al-Kazim, et ils se sont joints à lui et ils l'ont accepté réellement. Mais est-ce que lorsque nous acceptons Al-Firqa al-Fathiya aussi, cela met en doute réellement l'imam d'Imam al-Mahdi? C'est comme si l'imam al-Mahdi n'était pas encore né parce que nous allons avoir 12 imams. Le 12e imam serait Imam Hassan al-Askari et cela n'est pas la doctrine et l'enseignement chiite, mes chers frères et sœurs. Donc il faut comprendre réellement que lorsqu'on parle de ces écoles rentrent dans ce cadre-là pour dire que l'imam, il est imam lorsqu'il est dans la succession, dans le rang des 12 imams. Et lorsqu'on ajoute tout ça, Imam Ismaïl, ça va nous poser encore des problèmes. Lorsque l'imam se limite à Zayd, ça pose des problèmes. Lorsque l'imam aussi se limite à Abdullah et Aftah, ça pose encore des problèmes. Donc en réalité, mes chers frères et sœurs, lorsque vous essayez de mettre toutes ces écoles, vous allez trouver que ça ne se colle pas avec l'enseignement général chiite qui est bien aussi très clair, mes chers frères et sœurs. Donc en réalité, il y a aussi Firqa Waqifiya avec Imam Al-Kazim qui ont posé beaucoup de problèmes concernant l'imamat d'Imam Rida alayhi salam. Ça a posé aussi réellement des problèmes concernant l'imamat, mais en fin de compte, ça a créé un malheur, malentendu réellement entre les chiites concernant réellement l'imamat de ce temps-là. Mais en fin de compte, c'est Imam Rida alayhi salam qui a été nommé après Imam Al-Kazim comme étant bien l'imam de la communauté. Et en fin de compte, eux aussi, après, ils ont compris réellement qu'ils étaient dans l'erreur. Ils ont essayé de s'y ressaisir et s'y repentir et accepter l'imam de leur temps. Il y a aussi la question de cette discussion qui s'est passée aussi concernant l'imam d'Imam Mujawad, alayhi salam. Et comme étant bien très jeune, je crois bien qu'il avait entre 8 et 9 ans, donc étant bien très jeune, les gens ne pouvaient pas quand même facilement l'accepter parce que c'était très nouveau de trouver un imam aussi qui n'était pas aussi, qui n'avait pas atteint l'âge de la puberté aucunement, donc ils ont essayé de poser des problèmes. Mais Imam Al-Kazim, parce que Imam Al-Jawad, les imams se distinguent des autres avec leur science et leur connaissance, et il s'est distingué réellement des autres avec leur science, avec sa science qu'il détenait de ses grands-pères et de son père et de ses grands-pères. Il s'est distingué avec ses sciences, mes chers frères et sœurs. Alors son imamat a été accepté parce que l'imamat de Yahya, comme étant bien le prophète, il a reçu aussi la prophétie étant bien très jeune. Et Issa aussi a reçu la prophétie étant bien dans le berceau. Donc mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair pour dire qu'il y a des discussions par rapport qu'on puisse poser comme problème pour dire qu'il y a eu des écoles chiites qui se sont opposées réellement aux enseignements chiites des 12 imams, que les chiites ne sont pas d'accord. Oui, ça a été une erreur de cheminement. Ils se sont fait des erreurs et effectivement, il y en a qui ont pu réellement se ressaisir, mais il y en a d'autres qui n'ont pas pu se ressaisir. Et aujourd'hui, nous pouvons trouver aussi des écoles aussi ismaélites aujourd'hui et zaydi aujourd'hui, mais en réalité, lorsque vous essayez de faire une étude des cas, vous allez trouver que c'était des erreurs, ils ont fait des erreurs et d'appréciation de mes chers frères et sœurs concernant ces écoles. ça ne se colle pas avec l'enseignement prophétique et l'enseignement aussi chiite imamite. Et mes chers frères et sœurs, je tiens à vous dire que tous ces éléments, ce n'était rien d'autre que de créer le doute dans la tête des musulmans et la communauté chiite, et qui s'est passé aussi dans l'histoire jusqu'à nos jours, Inch'Allah. Donc mes chers frères et sœurs, sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.